Bonsoir. Alors, nous commençons en fait une série de deux débats qui sont très liés, puisqu'en fait, à travers le premier qui est consacré à Julio Cortázar et le second, celui qui commencera tout à l'heure à 18h30, nous allons évoquer le pari argentin, le pari des Argentins, c'est-à-dire explorer les influences réciproques, la nature du lien entre Paris et Buenos Aires. Et nous commençons donc par celui qui fut peut-être à un moment donné l'Argentin de Paris à lui tout seul, Julio Cortázar, qui vécut 35 ans à Paris. Entre 1951, il avait alors 37 ans quand il est venu s'installer à Paris, jusqu'à la date de sa mort à Paris en 1984. Alors pourquoi a-t-il choisi la France? En quoi l'exil a-t-il influencé son œuvre? Comment devint-il cette sorte de passeur entre deux continents, entre deux langues, entre deux cultures? C'est toutes ces questions que nous allons évoquer. Nous évoquerons évidemment son œuvre, enfin un petit peu, parce que c'est tellement vaste et nous n'avons qu'une heure, son art du conte fantastique en particulier, toujours en prise avec la réalité et le quotidien, cette manière dont, à l'instar d'un Joyce aussi, il a su bousculer les structures narratives du roman, ses préoccupations d'ordre philosophique ou existentiel aussi, car ses contes fantastiques sont aussi des contes philosophiques. Et puis nous évoquerons aussi l'homme, son engagement politique, son humour, son goût pour la musique et le jazz en particulier. Voilà un programme particulièrement vaste que certainement nous ne tiendrons pas, mais enfin en tous les cas nous essaierons, avec Michel Cazier, qui est écrivain, qui publie d'ailleurs en cette rentrée un très beau roman au Seuil, Mont Perdu, qui est traductrice de l'espagnol et qui est aussi, si je peux le dire comme ça, ma complice à Télérama, critique littéraire depuis de nombreuses années à Télérama. Et puis à côté de moi, Jacques Lénart, qui est philosophe et sociologue, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui, en particulier par rapport à le débat qui nous intéresse aujourd'hui, a coordonné l'ouvrage sur la littérature latino-américaine d'aujourd'hui, en fait, qui est issu d'un colloque qu'il avait organisé à Cerisy, je ne sais plus en quelle année.
C'était en 75, je ne sais pas, j'ai apporté le nom.
Et qui est publié en 10-18. Donc les actes du colloque sont disponibles en 10-18.
78.
En 78. Voilà. Et puis Jacques Lénart, qui a bien connu pendant de nombreuses années Cortázar. Alors, pour ouvrir ce débat, nous vous proposons de regarder en fait l'extrait d'un film où vous allez voir Cortázar, un film que Gérard Poitou a consacré en 1998 à Cortázar dans le cadre de la série de Bernard Rapp, Un siècle d'écrivains. Alors, nous allons en voir tout de suite. C'est un extrait d'une dizaine de minutes qui, je crois, devrait bien introduire nos discussions de cet après-midi. Mais peut-être faudrait-il dire un mot, Michel, de Gérard Poitou, parce que malheureusement, nous avons appris il y a juste quelques jours sa disparition.
Voilà. Ce soir, il devait être avec nous. Et son film sera là à sa place. C'est un film sur lequel il a travaillé avec beaucoup de passion parce que c'était un lecteur et un amoureux de Cortázar. Et je voudrais que cette soirée, on ait tous une pensée pour lui.
Voilà, puis juste un petit mot également pour excuser Edgardo Kozarinski qui devait être avec nous et qui n'est pas là. Nous ne savons pas pourquoi d'ailleurs, il n'a pas donné de nouvelles. Nous regrettons qu'il ne soit pas là parmi nous. Voilà, donc je vous propose de regarder cet extrait du film de...
L'excusons-nous.
Comment ?
Je dis l'excusons-nous.
Bien sûr. Donc l'extrait du film de Gérard Poitou sur Cortázar de l'émission de Bernard Rapp.
En France, c'est lui qui l'a fait connaître, et par cette porte royale, la littérature du Rio de la Plata a commencé à se faire connaître ici. Le hasard a voulu que moi, j'arrive chronologiquement à l'époque où ce phénomène se produisait, cette espèce de mutation dans le goût de lecteur français, et évidemment, ça a aidé au fait que tout de suite, Roger Caillois lui-même a pris des nouvelles de moi et les a publiées dans la collection La Croix du Sud. Et j'étais pris dans ce mouvement qui a lancé la littérature latino-américaine en Europe. Chaque fois que je me promenais dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires, et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, cet état ambulatoire où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, me situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi, dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégiée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes. Il y a aussi les galeries couvertes, la galerie Vivienne, il y a tous ces endroits de Paris que les gens parcourent pour aller à la recherche d'une boutique et qui pourtant étaient les lieux hantés de l'autre monde, dans le quartier de la Bourse. Toutes ces galeries couvertes qui font un Paris absolument magique, mystérieux, et c'est ce que j'appelle mythique. Buenos Aires est pareil, pour des raisons différentes, dans des endroits différents. Mon rapport avec ces villes, c'est finalement ce qui fait de ces villes une espèce d'extériorisation de ce qu'il y a de plus profond, de plus caché, de plus mystérieux en moi-même. Et que je vois dans la ville et qu'elle me renvoie.
Il me suffisait de me laisser aller à l'agréable dérive du promeneur qui va au gré des rues préférées, et presque toujours ma promenade aboutissait au quartier des galeries couvertes. Peut-être parce que les passages et les galeries sont plus toujours ma patrie secrète. Ici, par exemple, le passage Trouvé-Metz, territoire ambigu où, il y a bien longtemps déjà, je suis allé perdre mon enfance comme un vieux vêtement. Dans les années 30, le passage Trouvé-Metz, c'était la caverne au trésor où se mêlait délicieusement la vision du péché et le goût des bonbons à la menthe.
Dans cette nouvelle, L'autre ciel, Cortazar nous fait passer par glissement de la galerie Vivienne, dans un Paris de 1870, au cœur du passage Rouenès, dans un Buenos Aires de 1930. Les deux lieux et les deux époques sont unifiés par le « jeu » du narrateur qui court à travers tout le récit.
Tous les débuts de mes nouvelles, de mes contes, se basent toujours sur un petit épisode quotidien. Ce petit épisode met en marche ce qu'on pourrait appeler l'irruption du fantastique. Si on commence par accepter le fantastique, c'est une façon de lui ouvrir la porte. Alors lui, il vient. Dans ce sens-là, on ne le recherche pas, mais on l'invite. Et je crois que j'ai passé ma vie à inviter le fantastique à entrer. Et il l'a fait souvent. Vous savez, c'est pas un paradoxe d'une fausse modestie, mais si bien je crois être l'auteur de mes romans, je ne suis pas très sûr d'être l'auteur de mes nouvelles.
On va peut-être changer l'orientation des oui. tables parce que c'est pas évident pour vous parler d'être comme ça de profil. Donc juste un petit instant s'il vous plaît.
Vous allez faire.
Voilà, vous êtes là. Il me semblait bien aussi qu'il y avait du monde dans la salle, mais je voulais en être certain. Alors, c'est intéressant cet extrait, je trouve, parce qu'il y a un moment donné où, quand on regarde le film, on ne sait plus trop si on est à Paris ou si on est à Buenos Aires. Et je trouve ça, symboliquement, j'avoue que je le découvre. Moi, ce film, je ne le connaissais pas. Mais en tous les cas, je trouve que symboliquement, c'est pas mal du tout, parce que c'est vraiment à l'image de Cortázar et de cet homme entre deux cultures, entre deux continents, entre deux langues. Alors, on pourrait peut-être commencer par ce thème avant de venir à l'œuvre et savoir d'abord qu'est-ce qui a amené Cortázar à s'exiler, à quitter l'Argentine et à venir s'installer en France. Jacques Lénard.
Je ne sais pas s'il y a une raison absolue, un pourquoi, mais Cortázar, à propos de son exil, dit plusieurs choses et dit des choses extrêmement intéressantes parce que d'abord il distingue dans son existence différents exils, différents moments de l'exil. Il est arrivé à Paris en 51, on pourrait dire qu'il est arrivé comme Jesús Soto est arrivé à Paris en 51, comme tant d'écrivains, d'artistes viennent à Paris, comme on vient à ce qui est encore à l'époque la capitale culturelle, ce mythe de Paris qui est si important pour les écrivains latino-américains à l'époque, et je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il y vient. Il y vient, il le dit lui-même d'ailleurs, lorsqu'il découpe son propre exil en plusieurs morceaux, il dit au fond, l'exil, c'est comme le grand voyage que faisaient nos grands-pères à Paris. C'est la même chose, nos grands-pères, nos pères sont venus fascinés par la culture française. Bon, ils allaient à Paris, ils allaient à Londres, il y avait différentes villes. Mais il y avait une fascination, et d'ailleurs il replace cette fascination dans le cadre d'une dépendance culturelle. Il dit bien qu'il y avait là quelque chose de triste dans la dépendance, tandis que sa génération et de plus en plus les écrivains vont venir comme figure de leur propre littérature. Et ce que Cortázar dit à propos des 20 premières années, ou en tout cas des 20 premières années de son exil, c'est qu'au fond, ce n'était pas un exil. Il n'était pas chez lui, mais il gardait tous les contacts avec l'Argentine. Il continuait à y retourner. Il écrivait pour l'Argentine. Il n'a jamais écrit en français, même si, on vient de l'entendre, il parlait parfaitement français. Il n'a jamais écrit en français, toujours traduit. Mais pendant ces 20 années, il a maintenu le contact avec sa ville, maintenu le contact avec ses lecteurs, sa culture, etc. Et puis, il y a 74. Et il dit, à partir de 74, c'est différent. Là, la dictature a pris le pouvoir en Argentine. Elle est d'ailleurs partout en Amérique latine. Pinochet est arrivé au Chili après 73, le Brésil depuis 64. Bref, toute l'Amérique latine est en dictature. Et cette fois, on interdit un livre de Cortázar. Et c'est ça qui va déclencher chez lui ce qu'il appelle, au fond, ce second exil. Ce second exil, alors, c'est un moment plus dur parce que ce lien avec la patrie, avec la langue, avec les lecteurs dans leur ville. Il faut savoir le rôle évidemment que joue Buenos Aires pour les Argentins. Je veux dire, c'est comme Paris pour beaucoup. C'est vraiment le territoire dans lequel on se promène, etc. Et alors là, il y a une rupture. Là, il dit, dès ce moment-là, je suis un vrai exilé. Je ne suis plus simplement quelqu'un qui a pris cette distance. Mais alors, ça je trouve très, très important de le comprendre et de le dire. Et elle dit, malgré ça, même de cet exil douloureux, même de cet exil qui a été dans sa vie une vraie rupture, tandis que le premier, était une manière d'être ici et là-bas, même malgré ça, il dit, il y a quelque chose qui relie ces exils dans leur dureté avec le mouvement que faisaient nos pères et nos grands-pères pour aller à Paris, pour sortir du pays, parce qu'il s'agit de sortir de chez soi et de se connaître, de se reconnaître, de se connaître à nouveau depuis l'extérieur. Et donc, il y a quelque chose de positif. Il a cette phrase, bon, il faut l'entendre avec sensibilité. Il a cette phrase, il dit, bon, peut-être que le livre brûlé, peut-être que le livre interdit n'était pas tout à fait bon. Alors profitons maintenant pour faire vraiment, maintenant dans l'exil et dans la douleur, un très bon livre. Et je trouve que c'est magnifique. Et ça donne toute cette dimension de, voilà, de l'ambivalence. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Cortázar est quelqu'un qui joue beaucoup. Alors, bon, c'est la tradition surréaliste aussi, évidemment.
Bien sûr,
il joue là-dessus, etc. Mais bon, on en reparlera. Oui. Mais pour l'exil, je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, comme un moment dans lequel il est possible de puiser à nouveau une énergie, mais une énergie qui va se développer sur plusieurs plans. Il y a le plan de la lutte politique. Cortázar va faire de son exil aussi le tremplin pour participer au tribunal Rossel, participer d'innombrables conférences, meetings, etc., pour essayer de combattre ces dictatures. Ça a été, à côté de sa littérature, je dirais, une de ses grandes missions.
Oui, parce qu'il ressentait peut-être son propre exil comme... d'une certaine manière moins difficile que celui de ses compatriotes argentins enfermés dans leur pays par la dictature militaire.
Voilà, alors il parle évidemment d'abord des exils intérieurs, c'est-à-dire ceux qui ont été simplement empêchés d'écrire, de parler, restés en Argentine. Il y a tous ceux qui sont partis, mais partis dans des conditions beaucoup plus difficiles que les siennes, parce qu'encore une fois, quand il est parti... Il est parti de son plein gré, et c'est ce qui explique aussi sa capacité à positiver, si je puis me permettre cet anachronisme, à rendre positif cet exil. Mais le rendre positif, c'est aussi lutter. C'est-à-dire c'est aussi un engagement politique qu'il n'a pas cessé d'avoir. Dans le livre, le premier livre de Cortázar qui a été interdit, Alguien anda por aquí, qui en français a été traduit par... j'ai oublié le titre. Il y avait aussi un texte qui faisait référence à la destruction de la communauté de Solentinam de Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal était un curé, poète nicaraguayen qui avait créé cette communauté. Et elle va être détruite. Et bon, Cortázar reprend ces thèmes, et il aura jusqu'à la fin un combat politique, notamment concernant le Nicaragua, constant. Alors voilà, l'exil aussi, c'est une position à partir de laquelle il a plus de liberté que ceux qui sont enfermés à l'intérieur pour faire du tapage à l'extérieur, pour mobiliser à l'extérieur contre ces dictatures, contre cette absence de liberté qui écrase les différents peuples d'Amérique latine. Et là, il y a un engagement constant et qui a duré jusqu'à la fin de sa vie, qui a d'ailleurs coïncidé avec la fin des dictatures. D'une certaine façon, il y a là un synchronisme. Bon, sa mort a été tragique, bien sûr, mais il y a quelque chose qui coïncide dans ce début des années 80 où les dictatures s'effacent petit à petit et où Cortázar aussi nous tire sa révérence.
Mais vous l'avez connu vraiment à un moment où il était... En fait, pour lui, c'était une souffrance de ne pas pouvoir retourner dans son pays quand il en avait envie, évidemment.
Ah oui, ça a été pour lui extrêmement dur. Bon, il est venu s'installer en France en 1951, mais très vite, il s'est installé pour écrire tranquillement dans un petit village de Provence qui s'appelle Seignon, où se trouvait déjà une Argentine, Rosario Moreno, qui était une artiste, une très très belle, enfin elle est toujours vivante d'ailleurs, une artiste qui, disons, était venue à Paris aussi, fascinée par Braque, fascinée par tout ce mouvement de la peinture qui se développait à Paris à cette époque-là. Et bon, Julio la connaissait, il s'est acheté une petite maison à Seignon, et puis il y a eu comme une communauté argentine qui s'est cristallisée là autour, et c'est l'occasion sans doute de dire encore une fois notre tristesse de ne pas avoir à cette table ce soir Saúl Yurkevich, qui était prévu à cette table, qui est l'éditeur de Julio Cortázar, et qui est mort cet été, comme ça, bêtement, accident de voiture, qui nous a quittés. Et Saul Yurkevitch, poète lui-même, professeur ici depuis très longtemps, Saul s'était installé là-bas et il y avait comme ça toute une petite communauté qui circulait autour de Cortázar. Saer venait aussi souvent et puis les Cubains venaient. Bref, il y a eu un petit noyau latino-américain quelque part dans la Provence de l'intérieur. C'était assez curieux. Et donc moi j'ai eu l'occasion de le connaître bien, de le fréquenter très très régulièrement. Et dans toutes ces années, avant le moment de l'interdiction, c'est-à-dire au moment où il pouvait encore, dans les années 60, il pouvait encore circuler. Et puis arrive 73, ça je me rappelle, le coup d'État au Chili, il est arrivé livide à la maison parce que bon, ça l'a vraiment touché directement. Bon, ça nous a évidemment tous touchés. D'ailleurs, on a tous collaboré à l'époque, et ça c'était aussi l'engagement politique de Cortázar, collaboré à un livre noir de la répression au Chili, qui a été notre manière d'intellectuel de faire connaître le drame qui se développait. Et Julio, évidemment, utilisait toujours non seulement sa grande taille, mais sa transcendance d'écrivain, son pouvoir d'écrivain, pour faire connaître ces moments terribles, ces horreurs d'ailleurs, qui se sont passées dès le début de la dictature de Pinochet au Chili. Et voilà, et donc il y avait Mario Mouchnik qui était éditeur en Espagne, etc. Tout ce petit groupe-là dans le Midi s'est retrouvé à travailler ensemble pour ce livre noir. Et Cortázar était vraiment, politiquement, il faisait partie d'aucun parti politique, c'est pas ça. Mais il a pris sur lui d'être un peu... tout à l'heure, Michel Abesca disait c'était l'Argentin de Paris. Bon, il était l'écrivain latino-américain en France qui, véritablement, portait le drapeau de cette liberté, de cette revendication de liberté pour les écrivains latino-américains.
Alors, sur la question de la langue, là, on a pu le constater, il parlait évidemment remarquablement français, mais il n'a jamais écrit en français. Il a même déclaré un jour, quand j'écris, ça vient en espagnol, la langue française, c'est pour mon plaisir. Alors Michel Gazier, en parlant, en préparant le débat l'autre jour, vous me disiez que même en espagnol, d'ailleurs, il avait un accent particulier, Cortázar.
Oui, il ne roulait pas les R. Et il avait un espagnol tout à fait évidemment, je me dis un espagnol impeccable, mais avec cette pointe d'accent dont je ne sais pas, d'accent français en quelque sorte, dont je ne sais pas, parce que moi je n'ai pas eu la chance de Jacques Lénard de le rencontrer. La seule fois où je l'ai rencontré, c'était sur un trottoir. Et c'est une anecdote toute petite. J'avais oublié d'acheter le pain, je suis sortie en pantoufles et sur un trottoir le soir, à 9h du soir, rue Rambuteau, j'ai vu se découper la silhouette de Julio Cortázar. Et comme une imbécile admirative, j'ai crié « Ah, Cortázar !» Il a ri et il y a eu juste un sourire. C'est notre seule rencontre. Et donc, je me demande, il est né, je crois, il est né en Belgique. Est-ce que cet accent, cette impossibilité, il en parle dans le film du reste, à rouler les R vient de ses premiers mots français, je ne sais pas. Mais effectivement, son français est légèrement teinté d'hispanité, mais son espagnol était très français en quelque sorte.
Et pourquoi alors est-ce qu'il a... Enfin, est-ce que vous avez eu, Jacques, l'occasion d'en parler avec lui? Pourquoi il n'a jamais... Ou est-ce qu'il a, à un moment donné, été tenté d'écrire en français ou jamais?
J'en ai jamais parlé avec lui, donc je ne peux pas vraiment répondre, mais je peux répondre, disons, par rapport à beaucoup d'écrivains que j'ai connus en situation d'exil et qui tous disent « on a une langue, on a une langue ». Alors, bien sûr, il y a les contre-exemples.
Comme Bianchiotti, par exemple.
Je pensais à Bianchiotti.
On parlera sûrement de lui dans le prochain débat ou à Alésia Duprofi.
Mais moi, j'en connais beaucoup qui... Donc, j'imagine que pour Cortázar, c'était la, ça, la vraie raison, c'est qu'on se fait sa culture linguistique, sa langue. Dire, pour toute personne qui écrit vraiment, la langue est un deuxième corps. Et on agit avec les mots, on regarde avec les mots. On n'a pas des yeux d'un côté et un vocabulaire de l'autre. C'est une seule et même chose. Et je crois que... Enfin, moi, je comprends très bien qu'un écrivain dise... Quelle que soit la perfection dans le maniement d'une autre langue, je comprends très bien qu'il tienne à écrire dans sa langue, qu'il reste dans sa langue, qui était, et ça je le rappelais tout à l'heure à propos de l'exil, c'est aussi un lien avec son pays. La langue est non seulement un instrument, mais c'est ce qui me relie à mes premiers lecteurs. Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les lecteurs ? Ça, c'est une autre affaire. Mais est-ce qu'un écrivain argentin écrit d'abord pour un public argentin ? Il faudrait demander à Tonuna Mercado qui est là. Bon, ça, c'est... Chacun se ressent comme ça. Est-ce que Borges, par exemple, se sentait l'écrivain de l'Argentine ou plutôt l'écrivain du monde ? Bon, ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir et qui est intéressant parce qu'il y a sans doute des positions différentes. Mais chez Cortázar, il y a une chose que je crois vraiment, c'est qu'il était important pour lui de ne pas perdre le contact avec son pays, de ne pas perdre le contact avec sa terre. Et que par conséquent, la langue était évidemment, surtout pour lui qui avait quitté le pays depuis très très longtemps, était le lien le plus naturel, le plus immédiat, le plus profond peut-être.
Avant d'en venir à l'œuvre, quel souvenir vous avez, là vous pouvez me faire un petit portrait rapide, quel souvenir vous conservez de l'homme Cortázar ? Jacques Lénard, parce que Michel Gazier ne le connaissait pas.
Je regardais Michel Gazier parce que finalement, la première chose que je voudrais dire est tout aussi anecdotique, c'est qu'il mesurait 2 mètres 3 et que pour moi qui ne suis pas petit, c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Il fallait que je le regarde comme ça. Et ça, c'est un vrai souvenir. C'est un vrai souvenir parce que, voilà, on ne rencontre pas souvent des gens. C'est très beau dans le film, avec ses grands bras qui n'en finissaient pas. On dirait un Giacometti comme ça qui avançait. Et il était comme ça. Il était de cette taille infinie. Alors, pour le reste, les anecdotes... Ça n'a pas de sens de donner ici des anecdotes. Mais il y avait une volonté...
Ouais. C'est pas la voix de Cortázar qui...
Non.
Qui réagit véhémentement à ce que nous disons.
Non, il y a une chose qui est très intéressante, bon, qu'il dit déjà dans le film et qu'on sait de lui constamment, c'est qu'il était à la recherche... De ces points de rupture, de ces limites, situations limites. C'est la seule maison dans laquelle j'avais tourné les tables. C'était chez Cortázar. On a fait tourner les tables, vraiment. Alors, je ne dis pas qu'elle tournait, qu'il y avait des esprits, etc. Oui, ça bougeait, etc. Mais lui tenait à ce que ça ait lieu. C'est-à-dire cet exercice, bon, qui n'est pas seulement hugolien, qui est un exercice, je crois, vraiment qu'il le remet dans le surréalisme, dans cette volonté de dire... La réalité, c'est toujours un côté, puis l'autre, et puis encore autre chose. Alors ça, dans les conversations, dans les amusements, il était très gamin dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il aimait bien jouer avec les objets, bricoler des figures improbables comme ça. Tout ça faisait partie de cette manière d'expérimenter les limites de ce qu'est notre bonne raison, plan-plan, qui cadre, qui saisit, qui classe toute chose. Il adorait passer de l'autre côté du miroir. Et si je peux raconter une anecdote, puisque je parle de miroir maintenant, c'est que dans ma maison dans le Midi, j'ai un miroir qui vient de chez Cortázar. Et que le miroir, c'est un miroir biseauté, donc c'est miroir. Dans le biseau, vous voyez toujours plusieurs images. Mmh. Hein, et ça,
que ça vienne de chez lui quand il habitait rue Saint-Honoré à Paris. Il y avait ce miroir-là, et le miroir était dans le couloir de la maison en bas. Il n'était pas à rouler au départ. Et puis je tombe dessus, je vois ce reflet comme ça, et je lui dis, qu'est-ce que t'en fais ? Il me dit, c'est pas à moi, etc. Prends-le. Et donc voilà, et je me regarde donc tous les jours quand je suis dans la maison, dans le miroir quant à ça.
Alors tout ça nous amène très directement à parler de ces contes fantastiques. Dans le film, on l'entendait qui disait, je suis sûr d'avoir écrit mes romans, je suis pas certain d'avoir écrit mes nouvelles fantastiques. Il les définissait lui-même comme la recherche de l'autre côté des choses. Donc en fait, ce fantastique très particulier, né du quotidien, ce regard de l'autre côté du miroir, on va essayer d'explorer un petit peu ce thème du conte fantastique chez Cortázar. Alors, Michel Gazier, vous m'avez proposé, je trouve que c'est une excellente idée, d'introduire ce débat en parlant de quatre nouvelles
voilà,
en particulier.
J'ai choisi, avec les nouvelles de Cortázar, le plaisir, c'est de pouvoir en découvrir à chaque relecture une nouvelle qui est votre favorite. Mais il fallait faire un petit choix, et donc j'ai choisi quatre nouvelles. La première, c'est, je crois, la première nouvelle qu'il a écrite, même si elle n'apparaît pas dans le recueil, dans les recueils qui sont publiés, comme la première, mais elle s'appelle La Sorcière, elle est publiée sous le titre Sorcière, l'article n'existe plus, mais je crois que c'est la première nouvelle qu'il a publiée dans la presse à Buenos Aires en 40, si je ne m'abuse, et j'ai eu la chance d'avoir à traduire cette première mouture pour une édition franco-espagnole, et donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à la retrouver. Elle est sensiblement semblable à celle que vous pouvez lire dans le recueil général, mais elle est plus simple, elle est moins travaillée, elle est peut-être plus directe, elle donne peut-être plus directement le sens que moi j'ai voulu voir dans cette nouvelle. Alors, que raconte-t-elle ? C'est l'histoire d'une petite fille qui est devant son plat de soupe et elle n'aime pas manger la soupe. Et elle dit, elle essaye de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer qui empêcherait que ses parents qui sont à côté d'elle disent « tu laisses tomber ta soupe ». Et elle se dit que s'il y a une mouche qui tombe dans la soupe, elle ne mangera pas la soupe. Et elle regarde intensément l'assiette et tout d'un coup, la mouche ne tombe pas, elle surgit de l'assiette. Donc, elle a créé une mouche. À partir de là, elle peut tout inventer. Toute sa vie va n'être qu'une série d'inventions successives. Elle va inventer un fiancé, elle va inventer une maison, elle va inventer des atours, elle va inventer des bijoux. Et toute sa vie sera une vie de sorcière, bien sûr, très très cachée, avec une façade impeccable. Et puis un jour, elle meurt. Et peu à peu, tous les objets de son invention vont se défaire et à la veillée mortuaire, il ne restera plus que l'herbe fraîche sur laquelle était installée cette maison qu'elle avait inventée avec tout ce qu'il y avait dedans. Alors, on peut lire ça, c'est une nouvelle absolument merveilleuse, d'une grande simplicité de récit. Mais que dit cette nouvelle ? Je crois que cette nouvelle, qui est la première donc qu'il a écrite, dit exactement ce qu'il va faire, à savoir, il n'y a qu'une seule magie dans la vie, on est sorcier quand on écrit. Parce que qu'est-ce que c'est qu'écrire des fictions ? C'est inventer des personnages, des lieux, des envies, des atours. Enfin, c'est inventer le monde. Et tant qu'il y a un lecteur pour vous lire, ben, cette nouvelle, cette histoire, elle existe. Donc, en fait, le fantastique, c'est l'imaginaire de l'écrivain et l'imaginaire du lecteur. Je crois que le premier fantastique, c'est ça. Et qu'en fait, cette première nouvelle, c'est une sorte de, comment dire, il lance ça dans le monde, dans la vie, dans la littérature, c'est une sorte de traité avec lui-même et avec le fantastique. Le fantastique, c'est d'abord l'écriture. La deuxième nouvelle que j'ai choisi de vous raconter brièvement s'appelle La Lointaine. La Lointaine, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Alina Reyes. Ce pseudonyme a été repris par un écrivain français et qui était sûrement, je l'imagine, une lectrice de Cortázar. Et c'est l'histoire d'une jeune femme en Argentine qui est musicienne et elle a le sentiment, où qu'elle soit, qu'il y a un malheur qui se passe dans sa vie, que sa vie est attaquée ailleurs, en fait qu'elle est double, qu'elle est ici et qu'elle est ailleurs. Qu'elle est ailleurs et petit à petit elle cerne où ailleurs. dans les pays de l'Est, en Hongrie, à Budapest, sur un pont. Et elle n'a de cesse que d'essayer de rejoindre cet ailleurs où elle est aussi, où elle souffre aussi. Toute la merveille de cette nouvelle, et quand vous allez à Budapest, il faut aller sur le pont où Alina Reyes rencontre son double, c'est qu'effectivement, elle va traverser ce pont. Au milieu du pont, elle rencontre une sorte de mendiante, une femme qui pleure, une femme seule. Et ça, c'est un des tours de main de l'écriture de Cortázar qu'il faut lire avec beaucoup, beaucoup d'attention. Nous disions ça tout à l'heure avec Michel Avesca. Parce que tout à coup, le jeu de la narration n'est plus le même. Et le jeu de la femme qui est arrivée n'est plus le jeu de la femme qui est repartie, puisqu'elle s'échange. Alors là, je ne sais pas, moi je ne suis pas argentine, mais il m'a quand même semblé que l'Argentine étant le grand creuset, étant le lieu de toutes les immigrations, je pense que quand on est argentin, on est aussi d'ailleurs, il y a un double de soi, une moitié de soi qui est quelque part, qui se promène quelque part en Europe. Et que si l'Argentine est aussi le pays de la psychanalyse, même si cette nouvelle n'a rien de psychanalytique, mais je pense que cette image du double, cette image de l'exil, cette image de la première, de cette traversée de l'océan que tout le monde a fait pour aller en Argentine, un jour, enfin tous les ancêtres, cette absence de racines là-bas, on crée ces racines là-bas, mais ces racines, elles viennent d'ailleurs, et donc cette image du double, et je crois... dans ce fantastique de la nouvelle, en fait, une sorte de, comment dire, de clin d'œil à tous les immigrés, pas seulement d'Argentine, du reste. La troisième nouvelle, excusez-moi, la troisième nouvelle est peut-être celle qui m'avait le plus impressionnée quand j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années et que je l'ai lue. Elle s'appelle « N'accusez personne ». Moi, je l'ai toujours appelée « La nouvelle du pull au vert », donc j'ai du mal à retenir le titre. C'est peut-être la plus classique au sens traditionnel du fantastique. L'histoire, c'est celle d'un homme qui va rejoindre sa femme. Il fait frais, c'est la fin de l'après-midi, et il pense qu'il doit passer un pull au vert. Il choisit un pull au vert bleu parce que ça va bien avec le costume gris. Donc il enlève sa veste, il prend son pull au vert. Et il va enfiler ce pull au vert. Et que quiconque ne s'est pas étouffé dans un pull au vert, à ne pas pouvoir sortir sa tête du col, me disent qu'en lisant cette nouvelle, il n'étouffe pas complètement. Ici, bien sûr, c'est extraordinaire, l'écriture de Cortázar est d'une précision, parce que la main qui passe devient griffe. Alors évidemment, il renoue avec la tradition fantastique et la tradition de toutes ces transformations. On pense à Ovide, aux métamorphoses, bien sûr, la part animale de l'homme. Il y a en lui des griffes d'homme, des griffes d'animal chez l'homme, et l'animal va l'étouffer et il va passer par la fenêtre. Et cette nouvelle, qui est dans la grande tradition, est peut-être la plus, on va dire, mais pas au mauvais sens du terme, la plus anecdotique, mais une des nouvelles les plus puissantes que j'ai jamais lues. En 4 pages, c'est vraiment l'angoisse et le frisson garanti. Je crois que ceux qui l'ont lu me diront, on ne peut pas passer un pull au vert sans passer à Cortázar. Et la quatrième nouvelle que j'ai choisie, cette nouvelle, je l'ai lue d'abord dans la presse, comme peut-être bon nombre d'entre vous. Elle s'appelle « La deuxième fois ». La deuxième fois, c'est une nouvelle où, ce que vous disiez tout à l'heure, Jacques, la part politique et la part fantastique chez Cortázar se croisent et se rencontrent. La deuxième fois, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se rendre à une convocation sur papier jaune qu'elle a reçue dans une administration. Il faut faire très attention à la manière dont elle est racontée, parce qu'au début de la nouvelle, on entend une voix qu'on n'identifie pas très très bien. Donc, on la raconte de l'extérieur, ce n'est pas elle qui parle. Elle va dans cette administration, il y a des gens qui attendent, et certains d'entre eux ont reçu un papier comme elle, une convocation jaune, et il y a un jeune homme qui n'a pas reçu de convocation, mais lui, c'est la deuxième fois. Et la deuxième fois, elle se dit que peut-être la deuxième fois, il n'y a pas besoin de papier, on vous dit, vous revenez dans 3 jours. Donc les gens, le premier avec la convocation se lève, passe, discute dans la salle d'attente, le deuxième passe, puis ressort. Et puis c'est au tour du jeune homme, après ce sera elle, et le jeune homme lui dit au revoir, ils ont bien sympathisé, ils ont fumé une cigarette ensemble, le jeune homme rentre dans la pièce, et là, elle attend, et au bout d'un petit moment, la porte s'ouvre et on lui dit que c'est à elle. Et le jeune homme n'est pas ressorti. Elle rentre, elle est assez mal à l'aise. Elle répond aux questions, qui sont des questions assez anodines. On lui fait remplir un papier. Et on lui dit qu'elle doit revenir 3 jours plus tard. Et elle sort, elle cherche, y a-t-il une autre porte par laquelle le jeune homme a pu passer ? Elle ne voit pas d'autre porte. Elle descend dans la rue, et là, il y a une voix, comme une voix off, qui dit la deuxième fois, et on a compris que celui qui parle, celui qui raconte la nouvelle, c'est un des administratifs policiers qui sont là, et que la deuxième fois, c'est la disparition. Et c'est en fait une nouvelle politique complètement sur la disparition en Argentine. Et c'est là où le fantastique de la disparition, disparaître comme ça, et l'horreur de la disparition de ces dictatures coïncident. Je crois que c'est la première nouvelle vraiment politique qu'il a écrite. Il a écrit d'autres choses, mais dans l'ensemble des nouvelles. Et la deuxième fois, c'est vraiment un texte qui est à la fois complètement kafkaïen, puisque le visage n'apparaît pas, on ne sait pas qui est cette administration, et totalement ancré dans la réalité, dans la sombre réalité argentine. Et je crois que, simplement, je ne vais pas tirer de conclusion, parce qu'il n'y a pas de conclusion à tirer, mais si vous n'avez pas lu toutes les nouvelles de Cortázar, courez vite.
Alors on voit déjà différentes facettes. On voit bien que le fantastique chez Cortázar, c'est complexe. Jacques Lénard, vous vouliez insister sur un autre aspect de ces contes fantastiques qui sont aussi des contes philosophiques, et notamment d'insister sur le regard sur l'autre qui est porté dans ces nouvelles, sur cette manière très particulière de regarder en biais la réalité chez Cortázar.
Je ne suis pas sûr que ce soit très différent, parce que la première nouvelle que commentait Michel Gazier à l'instant, est où le « je » change de support corporel, change le « je ». Alors, il y a un « je » littéraire, mais il faut, comme disait Michel Gazier, bien lire pour se rendre compte que d'un seul coup, il y a eu un retournement, un retour. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on trouve dans énormément de ces nouvelles. Alors, bon, il y a une chose quand même qu'il faut rappeler, c'est que la nouvelle, on n'est pas très habitué dans la littérature française à la nouvelle. Mais quand on est familier des Argentins en particulier, de Borges, de Cortázar, de tous ces écrivains de la forme courte, l'importance, je dirais, philosophique de la forme courte saute aux yeux. Un roman, bon, c'est quelque chose d'épique, c'est quelque chose qui construit un monde, que des personnages, des figures vont traverser, etc. La forme courte, elle concentre l'attention sur des petites choses, mais qui sont des abîmes. Et le passage sur le pont à Budapest de cette femme... Ça me rappelle, moi, une autre nouvelle de Cortázar qui reprend des thèmes comparables. De même que, d'ailleurs, la nouvelle que je vais évoquer reprend un autre élément que Michel Gazier a cité, c'est l'animalité dans le pullover, hein, la main qui se transforme en griffe, etc. Hein, nous sommes aussi, l'animalité n'est pas si loin de nous, nous ne sommes pas êtres humains si loin de tout ce monde animal. Bon, je voudrais parler d'une nouvelle qui, aussi en 5 pages, c'est extraordinaire, comment en quelques pages, quant à ça, arrive à poser des problèmes tout à fait fondamentaux de la... Alors, c'est de la narration et en même temps, c'est de la vraie philosophie. Ça s'appelle l'axolote. Ah oui. L'axolote qui est... alors, bon, c'est une promenade au jardin des plantes. Il est habitué, Cortázar, enfin, le narrateur, il est habitué à aller au jardin des plantes, à regarder les lions, les panthères, les zèbres, enfin, bref, tous ces animaux majuscules. Et puis ce jour-là, le narrateur dit la panthère était triste, le lion était fatigué. Bon, c'était vraiment pas des objets intéressants. Et donc, je décidais d'aller voir les poissons, enfin, comment on appelle ça,
l'aquarium.
Les aquariums, voilà, l'aquarium. Et alors, on arrive là, après cette introduction qui est une manière d'approche, qui est une manière de faire comprendre qu'on va arriver au centre du pont, comme disait l'autre récit. Là, d'un seul coup, on voit le narrateur qui se penche sur cet aquarium, qui regarde à travers la vitre, le verre. On retrouve évidemment ce thème de la transparence. Et ce thème de la transparence, il est multiplié parce que ce qu'il regarde aussi, c'est-à-dire l'axolote, est un petit poisson transparent. Est une espèce de transparence un peu dorée avec juste deux petits yeux, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment de la matière. Et le regard passe presque à travers, comme il passe à travers la paroi de l'aquarium. Et puis, le narrateur les regarde, il est fasciné, il reste là. Puis, bon, plus rien. Il rentre chez lui le soir. Et puis le lendemain, il retourne. Il retourne parce que probablement il n'est pas sûr d'avoir bien vu ou d'avoir bien compris ce qu'il voyait, que cette transparence était encore mystérieuse pour lui. Alors il revient, il colle de nouveau son nez sur l'aquarium, il est là, il regarde, et puis bon, la nouvelle est très courte, mais je la raccourcis encore beaucoup parce qu'il y a toutes sortes d'étapes, et d'un seul coup, il s'aperçoit qu'il se voit de l'autre côté du verre, de l'autre côté de la vitre. Il est lui, il y a comme s'il avait des yeux d'un côté et que lui soit de l'autre côté. Et donc il y a là dans ce jeu du sujet qui regarde, de l'objet à voir, et dans cette inversion, hein, c'est comme l'inversion des jeux sur le pont de Budapest, c'est l'inversion, le sujet et l'objet, qui suis-je ? On est de nouveau dans l'esprit surréaliste où des échanges d'identité se font, des échanges d'animalité et d'humanité, toute une série d'échanges qui mettent la réalité toujours dans ce moment de bascule. Alors, bon, ça c'est une des caractéristiques de Cortázar, plus généralement de beaucoup de cuentos latino-américains. Est-ce que c'est lié, comme Michel Abesca le suggérait tout à l'heure, à cette dualité ? Bon, un Argentin est toujours descendu du bateau, hein, l'homme descend du singe et les Argentins descendent des bateaux, tout le monde connaît cette histoire. Sans doute, et Borges a beaucoup utilisé ce vieux fond de culture européenne, il en a même rajouté, il en a même inventé, pour faire encore plus vrai européen, c'est-à-dire plus distancé, et permettre à ce jeu de mieux fonctionner, de savoir, au fond, où sommes-nous ? Hein, où sommes-nous Argentins ? Où sommes-nous Français, Parisiens Et là, le jeu des passages qu'on a vu tout à l'heure, hein, passage Vérododa, évidemment, j'ai beaucoup parlé de ça avec Cortázar, parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup sur Aragon et les passages, justement, le passage de l'opéra. Mm-hmm. Et Cortázar était aussi un lecteur fasciné des passages passages de l'opéra ou des différentes texte de la période surréaliste d'Aragon, où précisément ces jeux avec la réalité, vous vous souvenez, les cannes dans la vitrine qui deviennent des algues, et donc qui créent derrière la vitre de nouveau un aquarium. C'est ça que Aragon, en 23-24, avait déjà mis, et que Cortázar reprend dans cette histoire de l'axolote, c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire que le verre. Et sans doute y a-t-il d'ailleurs derrière là le grand verre de Duchamp, qui est quand même aussi une œuvre qui a travaillé Mata, le grand peintre chilien aussi. Qu'est-ce que c'est que le verre ? Il y a que des verres, des vitres, des vitreurs. C'est le titre de nombreuses œuvres de Mata. C'est-à-dire écrire sur la vitre, graver sur la vitre, mais c'est aussi écrire comme une espèce de surface intermédiaire, parce qu'il y a encore un monde derrière la vitre. C'est ça la question du grand verre de Duchamp, c'est qu'il y a quelque chose sur la vitre, mais que ce quelque chose, cette représentation, ne cache pas le monde qui est derrière. Et qu'on est à la fois dans la représentation et dans l'existence d'un monde extérieur. Quant à ça, il est un peu aussi dans ces jeux-là, où le verre lui sert de métaphore pour un basculement de la réalité, pour une possibilité toujours à la réalité d'être autre chose que ce qu'on croit. Et l'axolote, ce petit poisson, qui avait d'ailleurs déjà fasciné beaucoup les surréalistes avant même que lui-même ne s'en empare, quant à ça, Wolfgang Pahlen en avait parlé, Breton en avait parlé, etc. Breton disait, au Mexique, il y a deux choses importantes, l'axolote j'ai oublié ce que c'était que l'autre chose. Ouais, il y avait deux choses, c'était peut-être le chapeau de Pancho Villa quelque chose d'aussi folklorique. Mais c'était une manière de parler de sa fascination à lui, Breton, pour cet animal qui est, par sa propre transparence, lui-même une question. Enfin, il n'est pas une réalité bien certaine, bien fixe. Et je pense que Cortázar a repris cet objet singulier, cet objet transparent, parce que ça lui permettait justement de jouer sur devant, derrière, dedans, dehors. Ma réalité, la réalité extérieure, je, il... Et d'un seul coup, ce « il » devient « je ». Et donc là, moi, je vois alors là quelque chose qui peut avoir un rapport avec la situation de décentrement de la culture argentine. Ça, c'est extrêmement probable. Mais c'est aussi, je dirais, une épistémologie. C'est-à-dire que c'est une volonté de poser sérieusement aussi la question de notre identité. Sommes-nous si identiques à nous-mêmes que nous prétendons l'être ? N'y a-t-il pas des multiplicités qui nous sont intérieures, qui nous sont propres et qui sont aussi notre richesse, qui ne sont pas seulement « je est un autre ». On est dans la continuité du « je est un autre » de Rimbaud, mais en même temps, on est dans une réflexion, alors là, peut-être psychanalytique, sur l'inconscient, les couches de la conscience, etc., etc. Et de ce point de vue-là, je dirais que la forme brève chez Cortázar est une forme qui a toujours une pointe philosophique, où la narration, le récit, la promenade, mais vous mène quelque part à un point qui est un vrai point de réflexion, de savoir qui peut être politique, qui peut être philosophique. Et je crois que cette forme courte du cuento que nous n'avons pas assez en France l'habitude de pratiquer, nous pratiquons un peu, mais je crois qu'elle permet ça, elle est adéquate à ça.
Alors, on va être obligé on passe rapidement, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais enfin, quand même, essayer d'évoquer un certain nombre de points qui me paraissent très importants. Et en particulier le travail de Cortázar dans le domaine, enfin cette manière dont il a bousculé en fait les structures narratives, dont il a innové. Alors je pense évidemment à Marelle, hein, dont vous allez certainement parler. Et j'avais relevé cette phrase dans un entretien, je crois, que Cortázar avait donné. Il disait « Ce qu'il nous faut, c'est des Che Guevara du langage, des révolutionnaires de la littérature, bien plus que des littérateurs de la révolution. » Alors aujourd'hui, avec le recul, en quoi est-ce que, à vos yeux, Cortázar est un des grands innovateurs du XXe siècle littéraire ? Michel, lancez-vous.
Oui, moi je me lance. En fait, je crois qu'effectivement, avec Rayuela, Marelle en français, c'était un roman qui a bouleversé beaucoup de choses, parce que c'est un roman à tiroir, c'est un roman, je ne sais pas comment le définir, mais j'ai le sentiment que quelque part, il y a quelque chose du livre dont vous êtes le héros, puisqu'on peut recomposer, on peut se promener à travers ce roman de la même manière qu'en faisant ses propres itinéraires. Je pense que Je suis un peu embarrassée parce que je trouve que c'est un très très grand roman et que j'aime beaucoup ce roman, mais je trouve que s'il était visionnaire et s'il est l'écrivain qu'il est pour nous aujourd'hui, je pense qu'il est plus un nouvelliste qu'un romancier. Même si ce roman, effectivement, a été... Mais il n'a pas poursuivi véritablement. Dans le roman, il y a le livre de Manuel, qui est un livre plus faible aussi, enfin, sur le plan romanesque, qui est intéressant, qui est émouvant. Mais je crois vraiment que c'est sur le genre bref qu'il a été le plus inventif à tous les points de vue.
Vous êtes d'accord, Jacqueline?
Moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, le livre de Manuel est très sympathique.
Oui, sympathique.
Et c'est un livre qui colle davantage à l'histoire, à ses réseaux d'amitié dans ces années-là.
Et au moment où il était très engagé politiquement, justement. Voilà. Là, donc c'est un livre qui voulait témoigner de ça aussi.
Mais je crois profondément, comme... on l'a dit les deux et chacun à notre manière, Michel Gazier et moi, quant à ça, est un auteur de la forme courte. Et que, quel que soit l'intérêt des jeux formels à l'intérieur de Rajuel, quel que soit l'usage qu'il a pu faire du coupage, du décollage, des ciseaux, etc., etc., je dirais d'autres l'ont fait mieux que lui. Et probablement parce que Cortázar n'a jamais entrepris une grande œuvre épique. Or, là où ça marche, les ciseaux, c'est précisément lorsqu'il s'agit de montrer la complexité d'un grand événement, d'un grand morceau d'histoire, de territoire, d'épopée, etc. Et alors là, effectivement, on peut user légitimement et avec profit, je pense à... Ça a été fait d'ailleurs par la plupart des grands écrivains contemporains de Julio Cortázar, éventuellement un tout petit peu plus jeune, mais même pas. Je veux dire, Roa Bastos, Fuentes, sont des écrivains qui ont, avec beaucoup d'intelligence, différencié les plans de narration, mis des collages des textes à l'intérieur des textes, repris cette habitude que les surréalistes avaient commencé à utiliser. Et là, face à une histoire complexe, à une histoire qui doit toujours être vue du point de vue de l'impérialisme, du point de vue des opprimés, du point de vue des bourgeoisies locales, du point de vue, etc., toute cette histoire latino-américaine qui explose toujours en différentes facettes, parce qu'il y a une manière de l'exilé de l'avoir, il y a une manière de celui qui fait le dos rond à l'intérieur de voir cette histoire, etc. Toute cette multiplicité des regards, ce côté facétique de la réalité, dans une grande épopée, ces procédures techniques sont tout à fait idoines pour les manifester. Mais Cortázar n'a pas le sens épique. Hein, c'est pas son truc. Il est pointu, c'est un scalpel. Il va pointer quelque chose avec.
Infiniment petit, oui.
Voilà, dans le petit. Donc, on est malheureusement d'accord pour dire que c'est peut-être pas dans ces deux romans-là qu'il donne le meilleur de lui-même.
N'empêche que la lecture de Marelle est quand même extrêmement jouissive, si je peux me permettre. Pour terminer, parce que là l'heure tourne, mon sentiment c'est qu'aujourd'hui Cortázar n'est peut-être pas lu comme il devrait l'être en France. Et je ne dis pas qu'il est oublié, mais un peu quand même. Enfin, c'est mon sentiment, je me trompe peut-être, vous allez me dire. Je voulais savoir à vos yeux quelle est aujourd'hui son influence sur les écrivains argentins, sur les jeunes écrivains argentins et espagnols aussi. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Alors, d'abord, je voudrais dire, oui, je trouve que, en fait, les nouvelles de Cortázar actuellement ne sont pas, comme la plupart des nouvelles latino-américaines, très, très lues en France. Et, par exemple, il y avait une proposition de faire un recueil des nouvelles de Cortázar dans un autre classement pour Gallimard, qui n'est toujours pas fait parce que je pense que Gallimard pense que ça n'est pas complètement vendeur pour le moment. Donc, voilà, c'est peut-être un peu une période de purgatoire. Cela dit, je ne peux pas parler à la place des écrivains argentins, je ne sais pas, mais ils vont nous le dire peut-être tout
bien
à l'heure.
Sûr, oui,
mais j'ai rencontré, durant mes études espagnoles, enfin en Espagne plus exactement, beaucoup de jeunes écrivains espagnols qui voulaient être Cortázar. Ça, je me souviens, il y avait toute une génération, tout le monde voulait écrire des cuentos comme Cortázar. Hélas, ce n'était pas forcément aussi réussi. Mais je crois qu'il y a dans l'imaginaire de la très jeune, mais elle est plus très jeune puisqu'elle a vieilli avec moi, mais d'une certaine génération, il y a eu cette fascination pour les nouvelles de Los Cuentos de Cortázar.
Jacques Lénard, sur cette question, vous avez...
Non, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'il faudrait vraiment que ce soit les écrivains qui répondent. Je crois, de ce que je perçois en Amérique latine de la figure de Cortázar, c'est qu'il reste absolument un grand aîné. Alors, quel rapport on établit avec le grand aîné, avec la figure, avec cette figure, c'est toujours ambivalent. C'est-à-dire qu'on veut faire comme, et en même temps, il faut tuer le père, donc il faut faire autrement. Et maintenant, où en est exactement la nouvelle génération en Argentine, je ne peux pas le dire.
Mais est-ce qu'il n'est pas plutôt le grand frère plutôt que le père? Moi, j'ai l'impression que c'est la figure du grand frère. Donc, on a moins à tuer le grand frère que le père.
C'est vrai, parce que le grand-père, c'est Borges. Alors.
Voilà.
Et celui-là, il est...
Écoutez, je vous remercie tous les deux. Je regrette une fois de plus que Kozarinski n'ait pas pu participer à ce débat. En tout cas, je vous remercie. Vous n'étiez que deux, ce n'était pas facile. Merci. Alors, on va poursuivre dans quelques minutes sur le Paris argentin, le Paris des Argentins, avec des Argentins cette fois-ci. Alicia Durovne-Ortiz, Eduardo Berti, José Muñoz et Michel Gazier. S'il vous plaît, vous restez avec nous. Voilà, à tout de suite.